tout de suite l'heure du journal de 12h30, le vôtre Antoine Maret aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants annoncé dans les prochaines minutes par le Premier ministre. Un recul censé apaiser le mouvement des Gilets jaunes. Un choix salué par la majorité, mais pas par la droite et l'extrême droite qui réclament l'annulation pure et simple de cette taxe.
L'invité du journal de 12h30 aujourd'hui, ce sera l'économiste Philippe Aguillon. Il avait conseillé Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Le chef de l'État doit-il désormais changer de cap? C'est ce que nous lui demanderons.
Le rapport du Conseil de l'Europe sur les prisons en Europe ces 10 dernières années, deux tendances à retenir en France. Contrairement aux autres pays, le nombre de détenus y augmente et en particulier le nombre de détenus en préventive.
L'affaire du mur des cons arrive en justice. Elle avait été révélée en 2013. Le syndicat de la magistrature affichait au sein de son siège un trombinoscope de personnalités affublées de cette insulte. Plusieurs personnes concernées avaient porté plainte.
Et puis dans l'actualité internationale, l'armée israélienne annonce avoir détecté sur son territoire des tunnels souterrains du Hezbollah libanais. L'État hébreu justifie ainsi une opération pour les détruire à la frontière. Et puis, à 12h55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia Gesbert.
Alors que la COP24 vient de débuter à Katowice en Pologne, comment réduire notre empreinte et notre emprise sur la planète? Nous en parlerons avec la philosophe Virginie Maris, auteure de La part sauvage du monde qui paraît au seuil. Ce sera à partir de 12h55.
On vous retrouve dans 25 minutes. Moratoire, c'est le mot de cette journée. Un mot censé apaiser les tensions que traverse le pays depuis maintenant plusieurs semaines. Le mot a été lâché ce matin par des sources gouvernementales, comme on dit, et il devrait être officialisé dans la bouche du Premier ministre dans les prochaines minutes. Édouard Philippe va annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, notamment pour tenter d'éteindre la colère des Gilets jaunes. En attendant, c'est devant la majorité qu'il s'est exprimé. Le chef du gouvernement a présenté aux députés LREM les arbitrages décidés hier soir à l'Élysée. On retrouve à l'Assemblée nationale Anne Fauquembert. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour.
Alors,
à tous.
Qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre ?
Eh bien, l'autre maître mot de cette matinée, c'était l'apaisement, faire des gestes d'apaisement. C'est revenu tout au long de cette réunion qui a duré à peu près 1h30. Le Premier ministre aurait donc annoncé la suspension, et non pas un moratoire, suspension donc de la hausse des taxes sur les carburants. On joue sur les mots. C'est un moratoire donc qui ne dit pas son nom, moratoire qui serait de 3 mois. On arrête la hausse des taxes, le temps de discuter, de faire la concertation, a dit Aurélien Taché, député du Val-d'Oise. Un changement de cap, mais pas de changement de cap, mais un changement de méthode. On reste sur les éléments de langage habituel. Le gouvernement qui fait d'autres gestes, il laisserait aussi en place la détaxation du gasoil non routier pour les chauffeurs de poids lourds. Et puis on parle aussi de la suspension de la hausse du gaz et de l'électricité, des mesures fortes et symboliques qui concernent aussi la démocratie, selon un autre député notamment, avec cette grande concertation qui serait ouverte aux partenaires sociaux. Les détails de cette concertation seront donnés demain à l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup d'attentes des députés ce matin, des députés qui se sont retrouvés en première ligne face aux Gilets jaunes ce week-end partout en France et qui n'ont eu de cesse d'alerter le Premier ministre ces derniers jours. Encore ce matin, Aude Amadou, la députée LREM de Loire-Atlantique, dénonçait un moratoire tardif et pas à la hauteur. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment redonner du pouvoir d'achat de façon directe et rapide aux Français. Le Premier ministre va donc détailler depuis Matignon ses mesures dans quelques minutes, et ces mesures, il en sera question aussi demain à l'Assemblée nationale. Les questions au gouvernement sont annulées au profit d'un grand débat entre les groupes. Reste à savoir si ces mesures convaincront les Gilets jaunes, dont certains réclament toujours une 4e journée de mobilisation.
Merci Anne. On vient donc d'entendre les députés LREM. Dans l'opposition, ou plutôt les oppositions, c'est une autre histoire. On salue beaucoup moins ce moratoire. À droite et à l'extrême droite, on demande l'annulation pure et simple de la taxe. À gauche, les avis sont plus partagés entre Ségolène Royal, qui salue le geste du gouvernement tout en réclamant un coup de pouce au SMIC, et Clémentine Autain de la France Insoumise, qui appelle de ses voeux un changement de République. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
Alors avec ce moratoire, le gouvernement recule, mais il n'avait plus trop le choix.
En tout cas, il ne pouvait pas rester inflexible, faire comme si de rien n'était. On a vu depuis 2 semaines que ça ne faisait qu'aggraver la situation, et donc le gouvernement et le président de la République reculent avec ce que le Premier ministre a qualifié ce matin de nécessaire geste d'apaisement. Alors, premièrement, On peut se demander si ce sera suffisant. On peut aussi se demander si ce recul n'intervient pas trop tard, si ce geste d'apaisement ne sera pas perçu comme un premier geste de reddition de la part d'un pouvoir exécutif jusqu'ici inflexible, et si du coup, ça n'aura pas l'effet inverse de l'effet escompté, à savoir si ça ne pourrait pas attiser un peu plus encore la contestation et les violences dans les manifestations. On peut aussi imaginer que le président et le premier ministre savent parfaitement que ce recul, que ces concessions faites aux gilets jaunes seront probablement perçues comme un aveu de faiblesse. Et donc il y aura de nouvelles manifestations le week-end prochain, avec peut-être un regain des tensions et des violences. Mais du coup, comme il y aura eu ces gestes d'apaisement en direction des manifestants, ça pourra justifier des mesures de sécurité, des mesures de répression, des violences beaucoup plus musclées que ce qu'on a connu jusqu'ici. Et c'est d'ailleurs ce qu'a indiqué le Premier ministre ce matin aux députés de La République En Marche. Il faut maintenant que ces violences cesse, leur a-t-il dit, et il a fait applaudir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. On peut donc se demander si les mesures annoncées ce matin, ces gestes d'apaisement du gouvernement, n'ont pas essentiellement pour objet de délégitimer les raisons qui poussent les Gilets jaunes à manifester depuis 2 semaines.
Édouard Philippe qui s'exprime en ce moment même. Des dizaines de milliers de Français clament leur colère. Elle a longtemps couvé. Elle est aujourd'hui exprimée avec force et de manière collective. Cette colère, je l'entends, c'est la colère de la France qui travaille dur. C'est ce que vient de déclarer Édouard Philippe. Invité de ce journal, Philippe Aguillon. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Vous êtes économiste, professeur au Collège de France. Vous avez conseillé Emmanuel Macron lors de la présidentielle.
Oui.
Le moratoire, absolument, sur la hausse des taxes sur les carburants. Que pensez-vous de cette décision?
C'était évidemment indispensable. C'était le minimum. Disons que c'était le début. Voilà. Donc, c'était absolument à faire. Oui. Donc, j'approuve pleinement. Mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin et convoquer un vrai Grenelle fiscal, social et environnemental.
Question de Catherine.
Une grande négociation.
On écoute Catherine Pétillon du service économique de France Culture.
Alors, qu'est-ce que vous attendez d'un tel Grenelle et précisément comment assurer le financement de cette transition écologique, sociale, tout en tenant une baisse des dépenses publiques comme le vise l'exécutif? Bruno Le Maire l'a encore rappelé.
Écoutez, moi, mon point de vue, c'est d'abord de dire que à long terme, le pouvoir d'achat et l'augmentation du pouvoir d'achat ne peut provenir que d'une augmentation de notre croissance. Donc il y a un certain nombre de réformes à faire pour augmenter notre potentiel de croissance. Ces réformes ont déjà été mises en œuvre. Il y a la flat tax, la réforme sur le marché du travail, la formation professionnelle, l'éducation. Tout ça, c'est des réformes très très importantes. Et maintenant, il faut faire la réforme de la retraite, la réforme de l'État et la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est des réformes qui sont indispensables pour nous mettre sur le chemin d'une croissance durable. Et moi, mon problème, c'est les coûts de transition. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le processus de réforme ne va pas dérailler à cause de ce qui se passe en ce moment. Donc il faut apaiser et il faut montrer qu'on protège, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans la réforme.
Voilà. Mais précisément,
donc, il faut avoir des moyens pour cela.
Précisément, oui. Philippe Aguillon, l'exécutif propose des mesures d'apaisement, pour reprendre les termes du Premier ministre. Est-ce qu'on entend ces mobilisations, c'est la demande plus structurelle d'une préservation, d'une augmentation du pouvoir d'achat et un sentiment d'injustice sur la répartition d'une croissance qui est déjà morose? Voilà. Alors comment y répondre? Est-ce que ça suffira?
Alors écoutez, moi je pense que, je pense qu'il y a eu un certain nombre de mesures qu'il ne fallait pas prendre. C'est-à-dire, un, c'était la hausse du prix des taxes carbone par-dessus la hausse du prix du pétrole. Ça, c'était une erreur. Les APE, c'était une erreur. Et je pense également que ne pas indexer les prestations de retraite sur l'inflation était une erreur également. Donc, je pense qu'il faut revenir sur ces trois choses-là. Il y a peut-être d'autres demandes qui viendront. Pour financer ces mesures, je pense qu'on a plusieurs pistes. Une piste, c'est la mise à plat des niches fiscales. Vous savez qu'on est passé à la flat tax. Normalement, la flat tax, ça va de pair avec une mise à plat des niches fiscales qui était justifiée par le fait qu'on avait une taxation excessive du capital avant. Maintenant, on l'a plus. Donc, on peut mettre à plat les niches fiscales. Une autre chose, c'est que, si nécessaire, je pense que à court terme, on peut on peut augmenter le déficit à plus que 3% du PIB et monter jusqu'à 3,5% si nécessaire pour financer les coûts de transition. Vous voyez, c'est temporaire, c'est pas permanent. C'est pour financer les coûts de transition. Alors, peut-être que ça sera pas nécessaire. Mais en tout cas, il faut qu'on arrête d'être soumis à ce que j'appelle, un Bercy qui dit on peut absolument rien faire parce qu'il faut absolument rester dans les clous à tout prix. Non. Si on fait des réformes structurelles, il faut savoir aussi peut-être sortir des clous si nécessaire.
Précisément, Philippe Aguillon, vous évoquez la flat tax. Je rappelle, c'est un impôt unique sur les revenus du capital. Il est aussi beaucoup question de la réforme de l'ISF dans les mots d'ordre des Gilets jaunes, dans les demandes de certains chefs de parti reçus hier à Matignon. Est-ce que c'était des mauvaises décisions?
Écoutez, en tout cas, moi, je pense qu'il fallait aller à la flat tax parce que ça nous mettait sur le même plan que les autres pays. Vous savez qu'il y a une mobilité des capitaux en Europe. Donc, je pense que passer à la flat tax, et enlever l'ISF, disons sur les capitaux mobiliers, c'était indispensable pour être compétitif et attractif pour l'investissement. Tous les autres pays, y compris les pays scandinaves qui sont très égalitaires, n'ont pas ont une flat tax et n'ont pas d'ISF, d'accord, sur les capitaux mobiliers. Donc si vous voulez, c'était nous mettre sur le même plan que les pays les plus progressistes d'Europe.
D'accord, mais il n'y a pas eu le pendant de cette réforme-là.
Seulement, il fallait le faire en mettant à plat les niches fiscales. Et c'est le « en même temps » qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis à plat les niches fiscales. Vous voyez, il y a par exemple une série de niches sur le logement ou d'autres sur la pierre, d'aide à la pierre, qui sont excessives et qui auraient pu être, en tout cas, reconsidérées. Et ça n'a pas été fait. Vous voyez. Donc,
Philippe Aguillon,
c'est ce « en même temps » qui n'a pas été fait.
Vous plaidez aussi pour une sortie temporaire de ces 3% de déficit du PIB, qui est une contrainte budgétaire imposée par Bruxelles. Vous êtes plusieurs économistes à plaider pour ça. Est-ce que Bruxelles serait prêt à ça ?
Écoutez, moi je pense que Bruxelles peut comprendre qu'on est en train de réformer, qu'on veut que les réformes réussissent et qu'on a besoin de leur soutien pour que ces réformes réussissent. Voilà. Donc il s'agit de dire, voilà, l'idée c'est de dire, nous avons besoin, peut-être qu'on n'aura pas besoin, d'une marge pour pouvoir éteindre le feu qu'il y a chez nous, parce que dans le feu et dans l'incendie, on ne peut pas faire de réformes. Donc pour pouvoir faire nos réformes, on a besoin de rétablir le calme et d'apaiser et de montrer aux couches les plus défavorisées qu'elles sont protégées dans la réforme. Donc ça, c'est très important. Je pense que Bruxelles comprendra, parce qu'ils veulent que les réformes réussissent.
Dernière question à Philippe Aguillon. On entendait Anne Fauquemberg évoquer les premières mesures d'apaisement et d'autres à venir. Oui. Vous avez conseillé, on le disait, Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit changer ses orientations économiques ?
Non, je pense que le cap est bon. Les réformes structurelles, le cap des réformes structurelles est un très bon cap. C'est justement pour le préserver qu'il doit se donner des marges en termes de coûts de transition. Vous voyez, il doit se donner des marges pour pouvoir poursuivre ces réformes structurelles. Vous voyez, c'est ça. Donc au contraire, le cap des réformes structurelles est un bon cap. À nouveau, il est le seul pour nous mettre sur le chemin de la croissance. Mais pour pouvoir le maintenir, eh bien, il faut se donner des marges. Et en particulier, c'est pour ça que je pense à cette marge du 3,5% et peut-être d'autres marges, la marge des niches. C'est pour en tout cas montrer qu'on peut se donner les moyens de faire en sorte que la transition se fasse avec les gens, pas contre le peuple, mais avec le peuple. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que la population française soit partie prenante de ces réformes.
Merci.
Et pas qu'elle sente que c'est fait contre eux. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Philippe Aguillon. Merci également à Catherine Pétillon en studio. Puis on a quelques éléments nouveaux sur les propositions faites par Édouard Philippe. Il annonce que donc la suspension pour 6 mois de la hausse de la taxe carbone, la convergence diesel-essence, la hausse du gazole, et il annonce également que l'électricité et le gaz ne vont pas augmenter pendant la concertation. Penchons-nous maintenant sur l'une des nombreuses conséquences économiques de ce mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup vu samedi ces images de chaos sur la plus belle avenue du monde. Et cela a des conséquences sur le tourisme à très court terme déjà, et en particulier les visiteurs chinois qui ont été plus de 2 millions à venir en France en 2017. Ce sont eux qui dépensent le plus d'argent. Du coup, les professionnels du secteur sont très inquiets. À Pékin, le reportage de Dominique André.
La France est l'une des 3 destinations favorites des touristes chinois, avec l'Italie et l'Allemagne. 83% des touristes chinois passent par Paris, la ville romantique, où ils ont dépensé 1 643 € par personne l'an dernier. Les annulations immédiates sont enregistrées par la China Commercial International Travel, une grosse agence de voyage à Pékin qui emploie 800 personnes. Madame Zhao est l'une de ses responsables.
Il y a déjà quelques jours, on a regardé à la télévision la manifestation sur les Champs-Élysées. Les gens étaient surpris. Et les Chinois, quand ils voient ça, ils sont un peu déçus. Ils disent que c'est pas sécuritaire d'aller en France. On voit qu'il y a encore des problèmes. Cette fois-ci, ce n'est plus le terrorisme, c'est une manifestation. Comme il y a le problème, donc ils ont décidé d'aller quand même en Europe, mais ils vont ailleurs.
Ils vont aller où ?
En Allemagne, en Espagne, donc en Italie. Ils vont faire un tour, mais éviter la France.
Et pour vous, qu'est-ce que ça représente ?
On peut dire 20% pour la destination de la France.
Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas lancé d'alerte sur la sécurité en France. Mais selon les voyagistes chinois, un retour au calme est nécessaire pour que les touristes réservent leurs prochaines vacances, notamment en février, lors des fameuses grandes migrations du Nouvel An chinois.
Alors Édouard Philippe vient d'annoncer moins de taxes, ça veut dire moins d'argent dans les caisses de l'État et le risque c'est d'accroître le déficit budgétaire. Et selon le ministère des Comptes publics, les chiffres ne sont pas bons dans ce domaine. En un an, le déficit s'est creusé de près de 10 milliards d'euros en France. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Emmanuel Macron s'était engagé à assainir les comptes publics, alors comment expliquer cette dégradation?
Dès les mois d'août, le gouvernement avait concédé qu'il ne tiendrait pas l'objectif de 2,3% de déficit en 2018, évoquant un chiffre plutôt aux alentours de 2,6 du PIB, dû donc en premier lieu à une prévision de ralentissement de la croissance. Cette dynamique s'explique aussi par la diminution des recettes fiscales, près de 7 milliards sur un an, liée aux baisses d'impôts décidées par le gouvernement et notamment à la diminution de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui est entrée en vigueur cet automne. Les fameux coûts de transition dont on parlait tout à l'heure, comme la transformation du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en baisse de charges, une réforme qui pèse évidemment sur les finances publiques, qui doivent à la fois supporter le remboursement du CICE et la baisse de cotisations décidée pour 2019. Rappelons que depuis le 1er octobre 2018, les cotisations des salariés pour l'assurance chômage sont totalement supprimées. Bref, le souci vraiment à proprement parler aujourd'hui n'est pas le budget 2018, mais celui de 2019, qui devrait donc être voté à la fin de l'année, à moins que les parlementaires, sous la pression des Gilets jaunes, n'en décident autrement.
Merci Annabelle Grelier. Comment mieux faire face aux prochaines crises financières en réformant la zone euro, par exemple? C'est ce qu'ont convenu les ministres des Finances de l'Union européenne. L'accord conclu entre les 27 renforce le système financier européen. La réforme prévue est bien moins ambitieuse que celle voulue par Emmanuel Macron. À Bruxelles, Pierre Benazet de RFI.
Les réformes adoptées au petit matin après 18 heures de réunion ne reprennent pas certaines des idées les plus visibles, comme celle d'un ministre des Finances de la zone euro ou la création d'un fonds monétaire européen. Mais pour les 19 ministres des Finances, les résultats de ce matin vont dans le sens d'un très net renforcement de la zone euro, avec en particulier de nouveaux outils pour le mécanisme européen stabilité. Il pourra prêter en dernier recours à une grande banque en situation de défaillance. De la même façon, l'idée d'un budget de la zone euro commence à se dessiner, un résultat des propositions portées par la France puis l'Allemagne. Olaf Scholz, ministre allemand des Finances.
Je crois que nous avons fait de grandes avancées pour le développement futur de la zone euro et de l'union bancaire, ainsi que tout ce qui s'y rapporte. De grands progrès dont il y a quelques années, et même au début de celle-ci, personne ne pensait que nous pourrions parvenir. Mais nous sommes tout de même parvenus à nous accorder sur de nombreux points que nous avions préparés en Allemagne avec nos amis français dès l'été dernier. Nous avons réussi à faire en sorte d'avoir plus de sécurité dans le système bancaire et ceci fait partie de notre volonté de rendre tout ce système plus stable.
Les 19 ont aussi créé une clause dite d'action collective pour éviter que les effacements de dettes puissent être bloqués par des demandes de compensation d'investisseurs privés. Pour les ministres, la monnaie unique en sort renforcée pour son 20e anniversaire.
Le Conseil de l'Europe vient de publier un rapport sur la situation des prisons en Europe entre 2005 et 2015. C'est l'occasion de comparer la situation carcérale en France par rapport aux pays voisins. Deux tendances à retenir. Contrairement aux autres pays, le nombre de détenus augmente en France et en particulier le nombre de détenus en préventive. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne annonce avoir détecté sur son territoire des tunnels souterrains du Hezbollah libanais. L'État hébreu justifie ainsi une opération pour les détruire à la frontière. L'armée a établi une zone militaire dans le secteur concerné. Elle y a renforcé sa présence. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. On connaissait les tunnels à Gaza, on les découvre désormais aux normes. Et est-ce que c'est vraiment une découverte, Étienne?
Ben, pas totalement, parce que c'est une réalité qui s'est imposée progressivement. D'abord, il y a eu le soupçon, il remonte à plus de 10 ans après la guerre de 2006. Ensuite, il y a les indices. Les habitants proches de la frontière du côté israélien avaient dit avoir entendu des bruits souterrains. Et selon l'armée israélienne, le Hezbollah avait créé une unité chargée de pénétrer en Israël en cas de conflit pour enlever des civils ou des militaires. En 2014, les Israéliens ont créé une unité chargée de localiser ces tunnels. Et en 2015, ils ont commencé la construction d'un mur au sud de la frontière avec le Liban pour renforcer la protection du territoire, en disant dans le même temps, ça c'était le discours des militaires, qu'il n'y avait pas de tunnel existant entre le Liban et Israël. Aujourd'hui, c'est donc la première opération contre ces tunnels. Elle a été baptisée Bouclier du Nord. Elle vise des tunnels offensifs qui passeraient sous le territoire israélien. Une photo a d'ores et déjà été diffusée par l'armée. Elle est de mauvaise qualité. Elle montre l'intérieur du tunnel qui passe depuis le village de Kafr Kela au Liban jusqu'en Israël et il a été, d'après cette information donnée par l'armée israélienne, neutralisé. Ce que dit l'armée de ces installations, c'est qu'elles ne sont pas complètes, qu'elles violent la souveraineté israélienne, qu'elles sont forées avec le même matériel utilisé contre les tunnels de Gaza, mais on ne sait pas quand ces tunnels ont été lancés ni combien ont été détectés. Avant cette opération, Benjamin Netanyahou a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, c'était hier à Bruxelles. Il y a 4 jours, le Hezbollah avait menacé Israël en cas d'attaque. Le front nord à la frontière syrienne était calme depuis maintenant 2 mois. C'est Gaza qui avait repris toute l'attention avec un affrontement il y a 15 jours qui avait coûté cher au Premier ministre dans l'opinion publique et qui avait failli entraîner la chute de la coalition.
Merci à vous Étienne Monin. L'armée israélienne qui a tué un Palestinien ce matin lors d'un affrontement en Cisjordanie occupée, c'est en tout cas ce qu'annoncent les autorités palestiniennes. Saal a déclaré que ses troupes avaient ouvert le feu au cours d'une émeute violente, je cite, elle n'a pas fait état de son côté de victime. Retour à l'actualité française avec l'affaire du mur des cons qui arrive en justice aujourd'hui. Elle avait été révélée par un journaliste de France 3, Clément Weil-Reynal, en 2013. Le syndicat de la magistrature classé à gauche affichait au sein de son siège parisien un trombinoscope de personnalités affublées de cette insulte. Plusieurs personnes concernées avaient porté plainte et l'indépendance des magistrats avait été mise en doute par cette affaire. Reportage Jean-Philippe Degnaud.
Un défouloir dans un lieu privé, un espace d'exaspération pour le syndicat de la magistrature. Ce mur des cons pouvait certes être le reflet de la pensée du militant, mais pas de celle du magistrat qui retrouve tous ses devoirs dès qu'il enfile sa robe, explique la secrétaire nationale du SM, Laurence Blisson.
Il est absolument possible d'être syndicaliste, d'avoir des positions qui sont des positions fortes et en même temps d'agir en tant que juge lorsqu'il applique le droit en toute impartialité. Et évidemment que le juge ne va pas s'interroger sur le fait de savoir est-ce que la personne que je juge est de gauche et de droite.
Parmi les personnalités épinglées sur le mur des cons, Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice à l'époque de Rachida Dati. 5 ans plus tard, le magistrat en veut toujours à ses collègues du SM d'avoir sali l'image de la profession.
Je pense que cette affaire devrait être clôturé par une simple prise de conscience des quelques représentants du syndicat de la magistrature qui devraient présenter leurs excuses, dire qu'ils regrettent et qu'on tourne cette page qui durablement aura marqué l'institution judiciaire.
Pour l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, aujourd'hui sur le banc des prévenus, ce mur des cons ne peut s'apparenter à une injure publique puisqu'il n'était pas destiné à être rendu public. Françoise Martre voit dans cette procédure une attaque de la droite contre le syndicalisme judiciaire.
Je vous propose de retourner en France avec la politique française et ses déclarations d'Édouard Philippe donc qui annonce la suspension de la hausse de la fiscalité sur le carburant pour 6 mois. Il s'est exprimé pendant ce journal. Je vous propose de l'écouter.
Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Je suis par ailleurs convaincu que si l'État doit rester fort et ferme, il est d'abord le garant de la paix publique. Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Dans un souci d'apaisement, nous avons pris avec le président de la République les décisions suivantes. En premier lieu, 3 mesures fiscales devaient entrer en vigueur le 1er janvier prochain. La hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence, et enfin pour les professionnels, l'alignement sur la fiscalité des particuliers, de la fiscalité du gazole, des entrepreneurs non routiers, ce que l'on appelle le GNR. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes.
Édouard Philippe qui s'exprimait tout à l'heure en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Le procès en appel de Francis Saulme, condamné en première instance à perpétuité pour les meurtres de 2 enfants en 86 à Montigny-lès-Metz, eh bien ce procès en appel a débuté ce matin à Versailles par une demande d'acquittement de sa défense. Elle dénonce un procès inéquitable. Le tueur en série purge déjà des condamnations pour 9 meurtres. Il doit être jugé pendant 3 semaines. Pour un double crime qu'il a toujours nié au cours du 6e procès de cette affaire judiciaire. La cour devrait commencer cet après-midi à se pencher sur la personnalité de l'accusé. Cet après-midi, beau temps sur la Normandie, le nord, le bassin parisien et les côtes méditerranéennes. Ailleurs, temps maussade, voire pluvieux. Température douce pour la saison, 9 à Lille, 11 à Paris, 13 à Lyon, 19 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Tara Schlegel.